Jean-François Zigel. La preuve par Z. Une émission de France Inter faite à la main et pour les oreilles. Bonjour. Alors aujourd'hui, c'est Requiem. C'était le tout début, autrement dit l'introït, du Requiem de Johann Caspar Kerl, compositeur allemand du XVIIe siècle, dont vous avez senti, je l'espère, la ferveur grâce aux musiciens de l'Achéron et aux voix de Vox Luminis sous la direction de François Joubert Caillet. Un Requiem écrit selon le compositeur lui-même, je le cite, « pour le repos de mon âme ». Il a raison, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Mais au fait, d'où vient ce mot de Requiem ? Eh bien, requiem, c'est tout simplement le premier mot de l'introït de la messe des morts. En latin, requiem aeternam dona eis domine. Donnez-leur, Seigneur, le repos éternel. Et par extension, ce mot de requiem a fini par désigner toute la messe des morts en entier. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez parler soit de requiem, soit de messe des morts. Et des requiem dans la musique classique, on en a composé énormément. Plus de 2000 ont été dénombrés à ce jour. Mozart, Verdi, Fauré, Saint-Saëns, Cherubini, mais aussi Donizetti, Berlioz, Cambra, Cimarosa, Schumann, Brahms, Dvorak, Gounod, Ligeti, etc. Alors ça m'a donné l'idée de vous concocter une sorte de requiem imaginaire. Une émission découverte, choisis ton requiem en quelque sorte. Mais à tout seigneur, tout honneur, le requiem le plus joué dans le monde reste aujourd'hui encore celui de Mozart. J'en extrais le passage le plus tourmenté, le Kyrie, en forme de fugue. Alors non seulement c'est de la musique magnifique, mais j'en profite pour partager avec vous ce que je considère comme une véritable innovation théologique de la part de Mozart. En effet, dans la fugue, il y a un sujet, un thème principal. Pam, 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 pam. Et les paroles de ce thème, qu'on appelle donc le sujet, c'est Kyrie eleison. C'est du grec, puisque le Kyrie est la seule prière en grec de l'ordinaire de la messe. Le reste est en latin. Kyrie eleison, Seigneur, ayez pitié. Or, en même temps qu'on entend ce sujet, on entend tout de suite un contre-sujet qui fait pap 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 tagadagadagadagadagadagadagada sur les mots Christe eleison. Christe eleison. Je ne suis pas capable de vocaliser proprement au micro, mais vous l'avez compris, je mets l'accent sur le fait que Mozart superpose depuis la première mesure l'invocation au Seigneur et l'invocation au Christ. Et ce n'est pas innocent, parce que le Seigneur, ça représente le temps dans son éternité, il a toujours existé, il existera toujours. Tandis que le Christ qui est né, qui est mort sur cette terre, eh bien il représente notre temps terrestre. Et voici donc que Mozart confond en une seule temporalité le temps terrestre et le temps éternel. Le Kyrie du Requiem de Mozart, interprété par le chœur Arnold Schönberg et le Concentus Musicus Wien, sous la direction de Nikolaos Harnoncourt. Alors, autre tube absolu au pays des Requiem, le Dies Irae du Requiem de Verdi. Là, nous entrons dans la séquence, une séquence qui décrit l'Apocalypse, un texte écrit au XIIIe siècle et attribué au poète italien Thomas de Celano. C'est un texte étonnant, parce qu'on a l'impression d'une évocation flamboyante, gothique de la fin du monde, tout y est, les anges, les démons, les cavaliers de l'Apocalypse. Jour de colère où le monde sera réduit en cendres, la terreur nous saisira lorsque le juge apparaîtra pour tout juger avec rigueur. Et c'est l'occasion pour Verdi, dans son Requiem, un Requiem écrit pour très gros orchestre, de nous faire entendre une page qui est maintenant dans toutes les mémoires avec sa fameuse grosse caisse à contretemps.
Thank you.
L'extraordinaire Dies Irae, un extrait du Requiem de Verdi par l'Orchestre Philharmonique et les Chœurs de Munich sous la direction de Laurine Mazel. Alors, le Requiem de Verdi, ça a été une grande polémique parce qu'on a trouvé que c'était trop théâtral, que ça faisait presque penser, par certains moments, à de l'opéra. Par exemple, Hans Lick, esthéticien, grand critique, a traité le Requiem de Verdi d'opéra en habit ecclésiastique. La grande question est posée, qu'est-ce que le religieux? Qu'est-ce que le sentiment religieux? Qu'est-ce qu'une musique religieuse? Souvenez-vous que quand Mozart était compositeur maître de chapelle à Salzbourg, on lui a aussi reproché de se servir du texte de la messe pour faire de l'opéra. Donc il y a toujours eu cette question, comment définir le sentiment religieux en musique? Et justement, ce qui est intéressant du côté des compositeurs italiens, c'est que les Italiens ont une propension naturelle à extérioriser leur foi religieuse. J'ai vécu un temps à Palerme, en Sicile, et j'ai pu observer de temps en temps des dames d'un certain âge qui se jetaient à genoux en pleurant bruyamment devant une statue de la Sainte Vierge incrustée dans un mur ou au coin de deux rues. Donc l'extériorisation spectaculaire, voire théâtrale de la foi, n'est pas forcément contradictoire, me semble-t-il, avec le sentiment religieux. Et puisqu'on parle de théâtralité, je vous propose maintenant de passer à un autre compositeur italien, Cherubini. Enfin, il a été directeur du Conservatoire de Paris, il a passé une partie de sa vie à Paris, mais c'est tout de même un compositeur italien. Un compositeur que tenait Beethoven en grande estime. Il pensait que c'était un des plus grands compositeurs de son temps. Cherubini va nous faire entendre des trompettes, les fameuses trompettes du Jugement dernier. On en a déjà eu un tout petit bout là, si vous avez été attentif, à la fin de notre extrait du Requiem de Verdi. Mais là, vous allez avoir vraiment tous les cuivres de l'orchestre pour incarner ces trompettes du Jugement dernier, avec en prime la vibration métallique d'un tam-tam, avant que les cordes ne commencent leur course à l'abîme. C'était un extrait du Requiem de Luigi Cherubini, un Requiem qui porte le titre de Requiem à la mémoire de Louis XVI et qui a été écrit en 1816. Nous écoutions le début de son Dies Irae par les Ambrosian Singers et le Philharmonia Orchestra sous la direction de Riccardo Muti. La question qui se pose au fond, c'est celle de notre attitude devant la mort. Et c'est une question importante. Elle nous rassemble tous. Nous n'avons pas beaucoup de certitudes dans la vie, mais nous savons au moins une chose, c'est qu'un jour ou l'autre, nous allons tous mourir. Adopterons-nous la ferveur de Johann Caspar Kerl, le tourment de Mozart, l'effroi de Verdi ou la mise en scène de Cherubini? Eh bien, je vous propose maintenant une cinquième attitude face à la mort, l'acceptation simple et joyeuse. Elle est due au compositeur italien Domenico Cimarosa. Et c'est étonnant parce que cette acceptation joyeuse et cette musique presque prime sautière entre en contradiction avec l'intensité du texte traité. Le livre alors sera ouvert où tous nos actes sont inscrits, tout sera jugé d'après lui. D'après le texte, c'est un moment solennel, mais vous allez l'entendre, dans la musique, il y a une sorte de bonne grâce de la part de Cimarosa à accepter le jugement dernier. Thank you. Nous écoutions le Morse Stupebit, un extrait du Requiem de Domenico Cimarosa par le chœur du Festival de Montreux et l'Orchestre de Chambre de Lausanne sous la direction de Vittorio Negri. Et maintenant, je reviens à notre fil de Requiem en vous proposant d'écouter un extrait du Requiem de Dvorak. Je ne sais pas si vous connaissez cette grande œuvre romantique, mais c'est une œuvre que j'affectionne tout particulièrement. Et je vous propose d'en écouter le Recordare Jesu Pie. Rappelle-toi, Jésus, que c'est pour moi que tu es venu. Une musique de tendresse, une musique de lumière, avec en arrière-fond la tonalité pastorale des bois de l'orchestre. Recordare Jesu Pie, un extrait du très beau Requiem de Dvorak, une œuvre écrite en 1890. Et nous écoutions la soprano Ilse Ehrens, la contralto Bernarda Fink, le ténor Maximilian Schmidt, la basse Nathan Berg et le Royal Flemish Philharmonic sous la direction de Philippe Hervéguez. Alors au moment où nous en sommes, je pense qu'il serait peut-être bien de se livrer à une petite comparaison de larmes. Oui, parce que vous êtes d'accord avec moi, dans un enterrement, on a beau se dire éventuellement, si on est croyant, que le défunt va aller au paradis, on pleure. Enfin, il y a toujours des gens pour pleurer. Et je pense à la très belle prière du Lacrimosa. Lacrimosa dies illa. Un jour de larmes, c'est ce qui est évoqué dans cette prière du Lacrimosa, un autre extrait de la séquence du Dies Irae. Et je vous propose maintenant de comparer la manière dont trois compositeurs différents ont traité ce Lacrimosa. Et nous allons commencer avec Verdi. Alors, je sais qu'on a déjà eu Verdi précédemment, on l'a déjà entendu. Je m'étais promis dans cette preuve par Z de ne jamais faire entendre deux fois le même compositeur. Mais là, avec Verdi, je n'ai pas pu résister. Le Lacrimosa de son Requiem, c'est vraiment trop beau.
Oh.
Lacrimosa, dies illa, un extrait du Requiem de Verdi. Vous avez entendu successivement les voix de la mezzo-soprano Anne-Sophie von Otter, de la basse Alastair Miles, de la soprano Luba Orgonasova, du ténor Luca Canonici, et le chœur Monteverdi et l'orchestre révolutionnaire et romantique étaient placés sous la direction de John Eliot Gardiner. Alors après les larmes douloureuses de Verdi, voici les larmes de Berlioz, pleurs de révolte et non d'acceptation. Si j'étais menacé de voir brûler mon œuvre entière moins une partition, c'est pour la messe des morts que je demanderais grâce, a écrit Hector Berlioz dans ses mémoires. Son Requiem a été joué pour la première fois à l'église Saint-Louis des Invalides en décembre 1837. Le poète Alfred de Vigny assistait à la cérémonie, grand mélomane, les oreilles ouvertes, et il nous dit « la musique était belle et bizarre, sauvage, convulsive et douloureuse ». Un extrait du Lacrimosa du Requiem de Berlioz par les forces combinées du chœur de la radio de Leipzig, de l'ensemble vocal de Stuttgart et de l'orchestre symphonique de la radio de Stuttgart sous la direction de Sir Roger Norrington, un chef d'orchestre tout à fait passionnant par ses recherches sur les timbres et les instruments anciens. Il nous reste maintenant à écouter, toujours côté pleurs, un extrait du Lacrimosa du Requiem de Ligeti. Alors Ligeti est un compositeur hongrois, un compositeur du XXe siècle, mort en 2006, avec lequel j'ai même eu la chance d'étudier lorsque je sortais du Conservatoire de Paris. Alors on ne s'attend pas forcément à ce que Ligeti compose un requiem, il était juif, il n'était pas croyant, et pourtant son requiem reste aujourd'hui encore l'un des requiems les plus connus de la seconde moitié du XXe siècle, et cela grâce au cinéma. En effet, le génial réalisateur Stanley Kubrick en a utilisé des passages pour son film culte 2001 Odyssée de l'espace, un film réalisé en 1968. C'est donc le plus contemporain des Requiem que nous écouterons aujourd'hui et il me fait évidemment penser aux images qui restent associées maintenant dans mon esprit à cette musique, avec ses cosmonautes perdus dans l'espace, ses ordinateurs hostiles et une grande question, sert-il encore de prier lorsqu'on est perdu dans l'univers ? Une musique énigmatique, une musique des sphères, une musique sans début ni fin, peut-être pour célébrer la fin de l'espèce humaine et l'avènement des machines. Mais les machines continueront-elles à prier Dieu? C'était un extrait du Lacrimosa du Requiem de Ligeti par les London Voices et l'Orchestre Philharmonique de Berlin sous la direction de Jonathan Nott. Et maintenant, je voudrais vous faire partager la trouvaille de la semaine, une découverte que j'ai faite en préparant cette émission. Un compositeur dont je n'avais jamais entendu parler il y a quelques jours. Il s'agit du compositeur italien, romain très exactement, Giovanni Sgambati, un grand pianiste virtuose, très grande carrière, un chef d'orchestre, un compositeur de la seconde moitié du 19e siècle, qui est mort juste au début de la Première Guerre mondiale. Grâce à Sgambati, nous allons quitter la séquence du Dies Irae pour entrer dans l'offertoire avec le Domine Jesu. Domine Jesu Christe, Rex Gloriae, Seigneur Jésus-Christ, Roi de gloire, délivre les âmes de tous les fidèles défunts des peines de l'enfer et du gouffre profond. J'espère que, comme moi, vous apprécierez les harmonies colorées de la musique de Sgambati et la présence généreuse des cuivres de l'orchestre. Nous écoutions un extrait du Requiem de Giovanni Sgambati par l'Orchestre d'État de Stuttgart sous la direction d'Ulrich Waldörfer. Et maintenant, le Sanctus. Saint, 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 le Seigneur Dieu des armées, les cieux et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. Eh bien, pour le Sanctus, j'ai pensé au Requiem de Maurice Duruflé. Maurice Duruflé est un grand compositeur français, né en 1902, mort en 1986, organiste, pianiste, compositeur et professeur d'harmonie au Conservatoire de Paris pendant presque 30 ans. Eh bien, figurez-vous que son Requiem, avec ceux de Mozart et de Fauré, est l'un des trois Requiems les plus joués dans les pays anglo-saxons et aux États-Unis. Et on peut le comprendre si on se laisse séduire par la richesse opulente de la musique que nous écoutons maintenant.
Thank you.
C'était le Sanctus du Requiem de Maurice Duruflé, une œuvre écrite en 1947. Le chœur et l'orchestre de la radio de Munich étaient placés sous la direction d'Ivan Repucic. Et nous allons rester en France avec un Pie Jesu écrit par Charles Gounod. Alors Charles Gounod, c'est un cas un petit peu à part puisqu'il a composé pas moins de 4 Requiem. Et ce que nous allons écouter maintenant est extrait de son tout dernier Requiem, son 4e, celui en ut majeur, qui a été édité chez Choudens en 1895 avec cette épigraphe « La mort frappa Charles Gounod au moment où il exécutait au piano ce Requiem à Saint-Cloud. » Nous écoutions le Pie Jesu du Requiem en ut majeur de Gounod, son 4e Requiem, et l'ensemble vocal et instrumental de Lausanne était placé sous la direction de Michel Corboz. Mais peut-être, chers auditeurs, que vous vous posez maintenant la question suivante, à partir de quand, dans l'histoire de la musique, des compositeurs se sont-ils mis à écrire des Requiem ? Eh bien, voici un élément de réponse avec un extrait du Requiem des Rois de France d'Eustache du Corroy. Eustache du Corroy, c'est un compositeur fin 16e, début 17e, qui a été surnommé en son temps le prince des musiciens. Et sa messe de Requiem à 5 voix a servi constamment à toutes les funérailles royales à Saint-Denis depuis celle d'Henri IV, pour laquelle elle fut employée en 1610, donc un an après la mort d'Eustache du Corroy, jusqu'à la Révolution. Elle a donc été tout naturellement surnommée messe de funérailles des rois de France. Nous en écoutons maintenant l'Agnus Dei, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, aie pitié de nous, donne-nous la paix. Agnus Dei, quitolis peccata mundi, dona nobis pacem. C'était un extrait du Requiem des rois de France d'Eustache du Corroy, une œuvre du tout début du XVIIe siècle, et les voix et les instruments de douce mémoire étaient placés sous la direction de Denis Raisin d'Adre. Alors j'aime tellement cette prière de l'Agnus Dei que je voudrais vous en proposer une version alternative. Avec Corroy, nous avions quelque chose de solennel, d'austère, de retenu. Et je voudrais vous faire entendre un Agnus Dei beaucoup plus tendre, beaucoup plus consolateur. Je pense à l'Agnus Dei du Requiem de Johann Joseph Fuchs, compositeur viennois. Oui, à Vienne, il n'y avait pas que Mozart. Un compositeur très reconnu, très aimé en son temps, connu également pour avoir écrit un traité de contrepoint, le Gradus ad Parnassum, dans lequel ont étudié beaucoup, beaucoup de compositeurs des générations qui l'ont suivi. C'était également un organiste de grand talent, fils de paysan, parvenu petit à petit au sommet de la hiérarchie musicale. Alors on nomme son requiem Kaiser Requiem parce qu'il a été écrit en 1720 pour les funérailles de la veuve de l'empereur Léopold Ier. Nous écoutons donc maintenant l'Agnus Dei de Johann Joseph Fuchs, Agnus Dei quitolis peccata mundi, dona eis requiem. Nous écoutions l'Agnus Dei, un extrait du Kaiser Requiem de Johann Joseph Fuchs de 1720. Alors après avoir été conquis par la ferveur du Requiem de Kerl, goûté aux tourments du Kyrie de Mozart, partagé l'effroi et la douleur de Verdi, vu la mort mise en scène par Cherubini, l'avoir accepté dans la joie avec Cimarosa, avoir été ému par le record d'arrêt de Dvorak, révolté avec Berlioz, transporté dans un autre monde avec Ligeti, avoir respecté la solennité du Domine Jesu de Sgambati, cru et espéré avec Duruflé, supplié avec Gounod, avoir été dans la retenue avec le Requiem pour les rois de France de Corroy et enfin avoir été consolé par l'Agnus Dei de Johann Joseph Fuchs, il reste peut-être une dernière attitude à adopter devant la mort, celle de Fauré qui écrit en 1888 son Requiem en forme de délivrance heureuse, comme un sourire parmi les anges. « J'ai composé ce Requiem pour rien, pour le plaisir », déclara le compositeur. Et dans une autre de ses lettres, il parle d'un Requiem doux comme moi-même. « Que les anges te conduisent au paradis et t'introduisent dans la Jérusalem du ciel, que les anges en cœur te reçoivent et que tu jouisses du repos éternel. »
Thank you.
Nous écoutions la merveilleuse musique du Requiem de Fauré, la Chapelle Royale et l'ensemble Musique Oblique sous la direction de Philippe Hervègue. Alors je ne résiste pas, même si je sais que le temps nous est maintenant compté, à vous citer quelques lignes du philosophe Vladimir Yankelevitch, un grand amoureux de Fauré, et voici ce qu'il dit sur cette dernière prière du Requiem de Fauré. Dona eis requiem sempiternam, ainsi s'achève cette ineffable musique de la nuit, avec son espérance mêlée à la réminiscence d'un paradis perdu, avec ses suavités, son invisible quitiège. Les arpèges de minuit, flottant dans l'azur, nous parlent de l'avenir. Nous percevons en eux la voix des morts, les souffles invisibles, et ils continuent de chuchoter à notre oreille, longtemps après que la céleste musique s'est repliée dans le silence. Voilà, avec le philosophe Vladimir Yankelevitch et l'In Paradisum du Requiem de Gabriel Fauré, se termine donc notre émission intitulée cette semaine « Un Requiem imaginaire » à l'occasion de la Toussaint et de la fête des défunts. J'espère bien que vous me direz votre préféré parmi les 15 que vous venez d'entendre. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, avec la preuve par Z, mourir n'a jamais été aussi agréable. C'était une émission de Jean-François Digel, réalisée par Anne Weinfeld et préparée avec la collaboration de Dorian Seigre, chef opérateur du son Olivier Dupré. À la semaine prochaine.